Bibliothèque nationale. Je suis assis et je lis un poète. Il y a beaucoup de gens dans la salle, mais on ne les sent pas. Ils sont dans les livres. Quelquefois, ils bougent entre les feuillets, comme des hommes qui dorment et se retournent entre deux rêves. Ah, qu'il fait bon être parmi des hommes qui lisent. Pourquoi ne sont-ils pas toujours ainsi? Vous pouvez aller à l'un et le frôler, il ne sentira rien. Vous pouvez heurter votre voisin en vous levant, et si vous vous excusez, il fait un signe de tête du côté d'où vient votre voix. Son visage se tourne vers vous et ne vous voit pas. Et ses cheveux sont pareils aux cheveux d'un homme endormi. Que c'est bon! Et je suis assis, et j'ai un poète. Quel destin! Ils sont peut-être 300 dans cette salle qui lisent à présent. Mais il est impossible que chacun d'eux ait un poète. Dieu sait ce qu'ils peuvent bien lire. Il n'existe d'ailleurs pas 300 poètes. Mais voyez mon destin. Moi, peut-être le plus misérable de ces liseurs, moi, un étranger, j'ai un poète. Bien que je sois pauvre, bien que mon veston que je porte tous les jours commence à s'user par endroits, bien que mes chaussures ne soient pas irréprochables, sans doute mon col est propre, mon linge aussi, et je pourrais, tel que je suis, entrer dans n'importe quelle confiserie, au besoin sur les grands boulevards, et je pourrais sans crainte avancer la main vers une assiette de gâteau et me servir. On n'en serait pas surpris, et nul ne songerait à me gronder et à me chasser, car c'est encore une main de bonne compagnie, une main qui est lavée 4 ou 5 fois par jour. Oui. Il n'y a rien sous les ongles, l'index est sans encre, et les poignets surtout sont en parfait état. Or, nul n'ignore que les pauvres gens ne se lavent jamais aussi haut. On peut tirer de leur propreté certaines conclusions, et l'on conclut. Dans les magasins, l'on conclut. Sans doute il y a quelques individus, sur le boulevard Saint-Michel par exemple, ou dans la rue Racine, que mes poignets ne tromperont pas. Ils se moquent bien de mes poignets. Ils me regardent et ils savent. Ils savent qu'au fond, je suis des leurs, que je ne fais que jouer un peu de comédie. N'est-ce pas carnaval? Et ils ne veulent pas me gâter le plaisir. Ils grimacent un peu et clignent des yeux. Personne ne l'a vu. D'ailleurs, ils me traitent comme un monsieur. Pourvu qu'il y ait quelqu'un près de nous, ils se montrent même empressés, et font comme si je portais un manteau de fourrure, comme si ma voiture me suivait. Quelquefois, je leur donne 2 sous, en tremblant qu'ils ne les refusent, mais ils les acceptent, et tout serait dans l'ordre s'ils n'avaient pas de nouveau un peu ricané et cligné de l'œil. Qui sont ces gens? Que me veulent-ils? M'attendent-ils? Comment me reconnaissent-ils? Il est vrai que ma barbe a l'air un peu négligée et rappelle un peu, un tout petit peu, leurs vieilles barbes malades et passées qui m'ont toujours surpris. Mais n'ai-je pas le droit de négliger ma barbe? C'est le cas de beaucoup d'hommes occupés, et l'on ne s'avise pas pour cela de les compter parmi ces épaves de la société. Car il est évident que cela forme le rebut et que ce ne sont pas de simples mendiants. Non. Au fond, ce ne sont pas des mendiants, il faut distinguer. Ce sont des déchets, des pelures d'hommes que le destin a crachés. Humides encore de la salive du destin, ils collent à un mur, à une lanterne, à une colonne d'affichage, ou bien ils coulent lentement au fil de la rue, en laissant une trace sombre et sale. Que diable voulait de moi cette vieille qui, avec son tiroir de table de nuit, où roulaient quelques boutons et quelques aiguilles, avait surgi de je ne sais quel trou? Pourquoi marchait-elle toujours à mon côté et m'observait-elle? Comme si elle essayait de me reconnaître, avec ses yeux chassieux, ses yeux où un malade semblait avoir craché des glaires verdâtres dans des paupières sanglantes. Et pourquoi cette petite femme grise resta-t-elle debout à côté de moi pendant tout un quart d'heure devant une vitrine, en faisant glisser un long et vieux crayon hors de ses vilaines mains fermées? Je faisais semblant de regarder l'étalage dont je ne voyais rien, mais elle savait que je l'avais vu Elle savait que j'étais arrêtée et que je me demandais ce qu'elle faisait. Car je comprenais bien qu'il ne pouvait s'agir du crayon. Je sentais que c'était un signe pour les initiés, un signe que les épaves connaissent. Je devinais qu'elle voulait me dire d'aller quelque part ou de faire quelque chose. Et le plus étrange était que je ne pouvais perdre le sentiment qu'il y avait réellement certaines conventions auxquelles appartenait ce signe, et que cette scène était au fond quelque chose à quoi j'aurais dû m'attendre. C'était il y a 2 semaines, mais depuis, plus un jour ne se passe sans une pareille rencontre, non seulement au crépuscule, mais en plein midi, dans les rues les plus populeuses, il arrive que subitement, un petit homme ou une vieille femme est là, me fait signe, me montre quelque chose et disparaît de nouveau. Comme si le plus nécessaire était accompli. Il est possible qu'un beau jour, ils s'avisent de venir jusque dans ma chambre. Ils savent fort bien où j'habite et prendront leurs dispositions pour ne pas être arrêtés par la concierge. Mais ici, mes chers, ici, je suis à l'abri de vous. Il faut avoir une carte spéciale pour pouvoir entrer dans cette salle. Cette carte, j'ai sur vous l'avantage de la posséder. Je traverse les rues avec un peu de crainte, comme bien l'on pense, mais enfin, je suis devant une porte vitrée, je l'ouvre comme si j'étais chez moi, je montre ma carte à la porte suivante, rapidement, comme vous me montrez vos objets, mais avec cette différence que l'on me comprend, que l'on sait ce que je veux dire. Et puis je suis parmi ces livres, je suis retiré de vous comme si j'étais mort, et je suis assis et je lis un poète. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un poète, Verlaine? Rien? Pas de souvenir? Non, vous ne l'avez pas distingué de ceux que vous connaissiez. Vous ne faites pas de différence, je sais. Mais c'est un autre poète que je lis, un qui n'habite pas Paris, un tout autre, un qui a une maison calme dans la montagne, qui sonne comme une cloche dans l'air pur, un poète heureux qui parle de sa fenêtre et des portes vitrées de sa bibliothèque, lesquelles reflètent, pensives, une profondeur aimée et solitaire. C'est justement ce poète que j'aurais voulu devenir, car il sait tant de choses sur les jeunes filles, et moi aussi j'aurais su tant de choses sur elles. Il connaît des jeunes filles qui ont vécu voici 100 ans, peu importe qu'elles soient mortes, car il sait tout, et c'est l'essentiel. Il prononce leurs noms, ces noms légers, gracieusement étirés, avec des lettres majuscules enrubannées à l'ancienne mode, et les noms de leurs amis plus âgés, où sonne déjà un peu de destin, un peu de déception et de mort. Peut-être trouverait-on dans un cahier de son secrétaire en acajou leurs lettres pâlies et les feuillets déliés de leurs journaux où sont inscrits des anniversaires, des promenades d'été, des anniversaires. Ou bien il est possible qu'il existe au fond de la chambre à coucher, dans la commode ventrue, un tiroir où sont conservés leurs vêtements de printemps, robes blanches qu'on mettait pour la première fois à Pâques, vêtements de tulle qui étaient plutôt des vêtements pour l'été que cependant l'on n'attendait pas encore. Ô sort bienheureux de qui est assis dans la chambre silencieuse d'une maison familiale, entouré d'objets calmes et sédentaires, à écouter les mésanges s'essayer dans le jardin d'un verre lumineux, et au loin, l'horloge du village. Être assis et regarder une chaude traînée de soleil d'après-midi, et savoir beaucoup de choses sur les anciennes jeunes filles, et être un poète. Et dire que j'aurais pu devenir un tel poète si j'avais pu habiter quelque part en ce monde, dans une de ces maisons de campagne fermées où personne ne va plus. J'aurais eu besoin d'une seule chambre, la chambre claire sous le pignon. J'y aurais vécu avec mes anciennes choses, des portraits de famille, des livres. Et j'aurais eu un fauteuil et des fleurs et des chiens. Et une canne solide pour les chemins pierreux, et rien de plus, rien qu'un livre, relié dans un cuir jaunâtre, couleur d'ivoire, avec un ancien papier fleuri pour feuille de garde. J'y aurais écrit, j'aurais beaucoup écrit, car j'aurais eu beaucoup de pensées et des souvenirs de beaucoup de gens. Mais la vie en a disposé autrement, Dieu sait pourquoi. Mes vieux meubles pourrissent dans une grange où l'on m'a permis de les placer, et moi-même, oui, mon Dieu, je n'ai pas de toit qui m'abrite, et il pleut dans mes yeux. Quelquefois je passe devant de petites boutiques, dans la rue de Seine, par exemple. Ce sont des antiquaires, de petits bouquinistes ou des marchands d'eau forte aux vitrines trop pleines. Jamais personne n'entre chez eux, ils ne font apparemment pas d'affaires. Mais si l'on y jette un coup d'œil, on les voit assis, toujours assis, lisant et insouciants. Ils ne songent pas au lendemain, ne s'inquiètent d'aucune réussite. Ils ont un chien qui est assis devant eux et frétille de bonne humeur, ou un chat qui agrandit le silence en se glissant le long des rangées de livres comme s'il effaçait les noms du dos des reliures. Ah, si cela pouvait suffire! Je voudrais quelquefois m'acheter une de ces vitrines pleines de choses et m'asseoir là, derrière, avec un chien, pour 20 ans. C'est bon de dire à haute voix, il n'est rien arrivé. Mais quand même je le dirai, et quand je le répéterai, il n'est rien arrivé, à quoi cela m'avancerait-il? Que mon poêle se soit encore mis à fumer et que j'ai dû sortir, est-ce là vraiment un malheur? Que je me sente là et transi, est-ce de quelque importance? Et si j'ai couru tout le jour dans les rues, c'est moi-même qui l'ai voulu. J'aurais pu aussi bien me reposer dans une salle du Louvre. Pourtant non, je crois que non. C'est qu'il y vient certaines gens pour se chauffer. Ils sont assis sur les banquettes de velours et sur les bouches de chaleur. Leurs pieds posent l'un contre l'autre comme de grandes bottes vides. Ce sont des hommes d'une extrême modestie qui savent gré à ces gardiens aux uniformes bleus constellés de décorations, de seulement les tolérer. Mais si j'entre, ils grimacent et hochent la tête. Puis, si je vais et viens devant les tableaux, ils me gardent à vue et me suivent obstinément de leur œil brouillé. J'ai donc bien fait de ne pas aller au Louvre. J'ai marché sans cesse. Dieu sait combien de villes, de quartiers, de cimetières, de ponts et de passages j'ai traversés. Je ne sais où j'ai rencontré un homme qui poussait devant lui une charrette pleine de légumes. Il criait « Chou-fleur, chou-fleur !» le fleur avec un « e » bizarrement trouble. À côté de lui marchait une laide et anguleuse femme qui de temps en temps le poussait. Et quand elle le poussait, il criait. Quelquefois aussi il criait de lui-même, mais alors son cri avait été inutile, et aussitôt il lui fallait crier à nouveau parce qu'on passait devant la maison d'un client. Ai-je dit que cet homme était aveugle? Non. Eh bien, il était aveugle. Il était aveugle et il criait. J'arrange en disant cela, j'escamote la charrette qu'il poussait, je feins de n'avoir pas remarqué qu'il criait des choux-fleurs. Mais est-ce bien essentiel? Quand cela serait essentiel, n'importe-t-il pas davantage de savoir ce que j'ai vu, moi? J'ai vu un vieil homme qui était aveugle et qui criait. Voilà ce que j'ai vu. Vu. Croira-t-on qu'il y ait de pareilles maisons? Non, l'on va dire encore que j'arrange. Mais cette fois, c'est la vérité. Rien d'escamoté. Bien entendu, rien d'ajouté non plus. D'où le prendrais-je? On sait que je suis pauvre, on le sait. Maison? Mais pour être précis, c'était des maisons qui n'étaient plus là. Des maisons qu'on avait démolies de haut en bas. Ce qu'il y avait, c'était les autres maisons, celles qui s'étaient appuyées contre les premières, les maisons voisines. Apparemment, elles risquaient de s'écrouler depuis qu'on avait enlevé ce qui les étayait. Car tout un échafaudage de longues poutres goudronnées était arc-bouté entre le sol encombré de gravats et la paroi dénudée. Je ne sais pas si j'ai déjà dit que c'est de cette paroi que je parle. Ce n'était pas, à proprement parler, la première paroi des maisons subsistantes, comme on aurait pu le supposer, mais bien la dernière de celles qui n'étaient plus. On voyait sa face interne. On voyait, aux différents étages, des murs de chambre où les tentures collaient encore, et ça et là, la tache du plancher ou du plafond. Auprès des murs des chambres, tout au long de la paroi, subsistait encore un espace gris-blanc par où s'insinuaient en des spirales vermiculaires et qui semblaient servir à quelque répugnante digestion, le conduit découvert et rouillé de la descente des cabinets. Les tuyaux de gaz avaient laissé sur les bords des plafonds des sillons gris et poussiéreux qui se repliaient çà et là, brusquement, et s'enfonçaient dans des trous noirs. Mais le plus inoubliable, c'était encore les murs eux-mêmes. Avec quelque brutalité qu'on l'eût piétinée, on avait pu déloger la vie opiniâtre de ces chambres. Elle y était encore, elle se retenait aux clous qu'on avait négligé d'enlever. Elle prenait appui sur un étroit morceau de plancher. Elle s'était blottie sous ses encoignures où se formait encore un petit peu d'intimité. On la distinguait dans les couleurs que d'année en année elle avait changées, le bleu en vert chanci, le vert en gris et le jaune en un blanc fatigué et rance. Mais on la retrouvait aussi aux places restées plus fraîches, derrière les glaces, les tableaux et les armoires, car elle avait tracé leurs contours et avait laissé ses toiles d'araignée et sa poussière même dans ses réduits à présent découverts. On la retrouvait encore dans chaque écorchure, dans les ampoules que l'humidité avait soufflées au bas des tentures. Elle tremblait avec les lambeaux flottants et transpirait dans d'affreuses taches qui existaient depuis toujours. Et de ces murs jadis bleus, verts ou jaunes, qu'encadraient les reliefs des cloisons transversales abattues, émanait l'haleine de cette vie, une haleine opiniâtre, paresseuse et épaisse, qu'aucun vent n'avait encore dissipée. Là s'attardaient les soleils de midi, les exhalaisons, les maladies, d'anciennes fumées, la sueur qui filtre sous les épaules et alourdit les vêtements. Elle était là, l'haleine fade des bouches, l'odeur huileuse des pieds, l'aigreur des urines, la suie qui brûle, les grises buées de pommes de terre et l'infection des graisses rancies. Elle était là, la doucereuse et longue odeur des nourrissons négligés, l'angoisse des écoliers et la moiteur des lits de jeunes garçons pubères. Et tout ce qui montait en buée du gouffre de la rue, tout ce qui s'infiltrait du toit avec la pluie qui ne tombe jamais pure sur les villes. Et il y avait encore là bien des choses que les vents domestiques, ces souffles faibles et apprivoisés qui ne sortent pas de leurs rues, avaient apportées, et bien des choses aussi dont on ne savait pas l'origine. J'ai dit, n'est-ce pas, qu'on avait démoli tous les murs, à l'exception de ces derniers. C'est toujours de celui-ci que je parle. On va penser que je suis restée longtemps devant. Mais je jure que je me suis mise à courir aussitôt que je l'eus reconnu. Car le terrible, c'est que je l'ai reconnu. Tout ce qui est ici, je le reconnais bien, et c'est pourquoi cela entre en moi aussitôt, comme chez soi. Après cet effort, je me sentis quelque peu épuisée, je dirais même atteint. Aussi était-ce trop pour moi que lui encore dût m'attendre. Il attendait dans la petite crèmerie où je voulais manger 2 œufs sur le plat. J'avais faim. J'étais restée tout le jour sans manger. Mais à présent non plus, je ne pouvais rien prendre. Mes œufs n'étaient pas prêts que je me sentis de nouveau poussée dans les rues qui coulaient vers moi empoissées de gens. Car c'était le soir, et de plus carnaval, et les gens qui avaient du temps à eux flottaient et se frottaient les uns aux autres. Et leur visage était plein de la lumière des éventaires, et le rire suintait de leur bouche comme de blessures purulentes. Ils riaient toujours plus, et s'aggloméraient d'autant plus que plus impatiemment je tentais d'avancer. J'accrochais, je ne sais comment, le châle d'une femme que j'entraînais. Des gens m'arrêtèrent en riant, et je sentais que j'aurais dû rire moi aussi, mais je ne le pouvais pas. Quelqu'un me jeta dans les yeux une poignée de confettis qui me brûlèrent comme un coup de fouet. Au carrefour, les gens étaient coincés, imbriqués les uns dans les autres. Il n'y avait plus d'avance possible, rien qu'un molle et silencieux mouvement de va-et-vient parmi eux, comme s'ils s'accouplaient debout. Mais bien qu'ils stationnassent, tandis que contre le trottoir, à travers la déchirure de la foule, je courais comme un fou, en vérité, c'était tout de même eux qui bougeaient, et moi qui restais en place. Car rien ne changeait. Quand je levais la tête, je continuais de voir les mêmes maisons d'un côté, et de l'autre, les baraques. Peut-être aussi tout était-il fixe, et n'y avait-il en moi comme en eux qu'un vertige qui semblait faire tournoyer le tout. Mais je n'avais pas le temps d'y réfléchir. J'étais lourd de sueur et une douleur étourdissante circulait en moi, comme si mon sang charriait je ne sais quoi de trop grand qui au passage distendait mes veines. Et je sentais en même temps que l'air était épuisé depuis longtemps et qu'il ne restait plus que des exhalaisons viciées dont mes poumons ne voulaient pas. Mais maintenant, c'est fini. J'ai tout surmonté. Me voici dans ma chambre, assis près de la lampe. Il fait un peu froid, car je n'ose pas mettre le poêle à l'épreuve. Que ferais-je s'il allait encore fumer et me chasser dans la rue? Je suis assis et je pense. Si je n'étais pas pauvre, je louerais une autre chambre avec des meubles moins fatigués, moins hantés par les précédents locataires. D'abord, il m'en coûtait vraiment d'appuyer ma tête dans ce fauteuil. Là, dans sa housse verte, il y a un vallonnement d'un gris graisseux qui doit s'adapter à toutes les têtes. Pendant quelque temps, j'ai pris la précaution de mettre sous mes cheveux un mouchoir, mais maintenant, je suis trop fatiguée. Et du reste, ce petit creux semble fait à la mesure de ma nuque. Mais si je n'étais pas pauvre, je commencerais par m'acheter un bon poêle, et je me chaufferais avec du fort et pur bois de montagne, au lieu de ces pitoyables têtes de moineau dont les émanations me font le souffle si irrégulier et la tête si trouble. Et puis, il me faudrait quelqu'un qui rangerait sans bruit et veillerait sur le feu comme je le désire. Car souvent, lorsque je dois rester un quart d'heure à tisonner, agenouillée contre le brasier dont le proche éclat me brûle les yeux et me rissole la peau du front, j'abandonne d'un seul coup tout ce que j'avais de force en réserve pour la journée. Et quand, après, je redescends parmi les hommes, ils ont naturellement sans peine raison de moi. Parfois, quand il y aurait foule, je prendrais une voiture, je passerais à côté des piétons, je mangerais tous les jours dans un duval, et je ne traînerai plus dans les crèmeries. L'aurais-je aussi bien rencontré au Duval? Non, on ne lui aurait pas permis de m'y attendre. On n'y laisse pas entrer les moribonds. Les moribonds. À présent que je suis à l'abri dans ma chambre, je vais essayer de réfléchir tranquillement à ce qui m'est arrivé. Il est bon de ne rien laisser dans le vague. Donc, j'entrai. Et d'abord, je vis que quelqu'un occupait la table à laquelle je m'assieds quelquefois. Je saluai dans la direction du comptoir, commandai mon repas et m'assis là, tout près. C'est alors que je le sentis soudain, bien qu'il ne bougeât pas. C'est précisément son immobilité que je sentis et que je compris tout à coup. Un courant s'était établi entre nous et je connus qu'il était raide de terreur. Je compris que la terreur l'avait paralysé, terreur de quelque chose qui se passait en lui-même. Peut-être un vaisseau se rompait-il en lui? Peut-être un poison qu'il avait longtemps redouté pénétrait-il en ce moment précis dans le ventricule de son cœur? Peut-être un grand abcès se levait-il et s'ouvrait-il dans son cerveau, comme un soleil qui lui changeait l'aspect du monde? Avec un indicible effort, je me forçais à regarder de son côté, car j'espérais encore que tout cela serait imaginaire. Mais enfin, Je sursautais et me précipitais au dehors, car je ne m'étais pas trompée. Il était assis là, dans un manteau d'hiver noir et épais, et son visage gris, convulsé, plongeait dans un cache-nez de laine. Sa bouche était close, comme si un poids subit reposait sur elle, mais il n'était pas possible de dire si ses yeux voyaient encore. Des lunettes embuées et grises de fumée les cachaient et tremblaient un peu. Ses narines étaient distendues, et sa longue chevelure se fanait sur ses tempes dévastées comme par une chaleur trop grande. Ses oreilles étaient longues, jaunes, et jetaient de grandes ombres derrière elles. Oui, il savait qu'en ce moment, il s'éloignait de tout, pas seulement des hommes. Un instant encore, et tout aura perdu son sens, et cette table, et cette tasse, et cette chaise à laquelle il se cramponne, tout le quotidien et le proche sera devenu inintelligible, étranger et lourd. Ainsi, il était assis là et attendait que ce fût consommé et ne se défendait plus. Et moi, je me défends encore. Je me défends, quoique je sache bien que déjà mon cœur est arraché, que si même mes bourreaux maintenant me tenaient quitte, je ne pourrais quand même plus vivre. Je me dis, il n'est rien arrivé, et pourtant je n'ai pu comprendre cet homme que parce que, en moi aussi, quelque chose arrive qui commence à m'éloigner et à me séparer de tout. Combien toujours il me fut horrible d'entendre dire d'un mourant, il ne reconnaît déjà plus personne. Alors je me représente un solitaire visage qui se soulève de dessus les coussins, qui cherche n'importe quoi de connu, n'importe quoi de déjà vu, et qui ne trouve rien. Si mon angoisse n'était pas si grande, je me consolerais en me persuadant qu'il n'est pas impossible de voir tout d'un œil différent et néanmoins de vivre. Mais j'ai peur, j'ai une peur indicible de cette modification. Je ne me suis même pas encore familiarisée avec ce monde qui me paraît bon. Que ferais-je dans un autre? J'aimerais tant demeurer parmi les significations qui me sont devenues chères. Et si pourtant quelque chose doit être changé, je voudrais du moins pouvoir vivre parmi les chiens dont le monde est parent d'une autre. Durant quelque temps encore, je vais pouvoir écrire tout cela et en témoigner. Mais le jour viendra où ma main me sera distante, et quand je lui ordonnerai d'écrire, elle tracera des mots que je n'aurais pas consentis. Le temps de l'autre explication va venir, où les mots se dénoueront, où chaque signification se défera comme un nuage et s'abattra comme la pluie. Malgré ma peur, je suis pourtant pareil à quelqu'un qui se tient devant de grandes choses, et je me souviens que, autrefois, je sentais en moi des lueurs semblables lorsque j'allais écrire. Mais cette fois-ci, je serai écrit. Je suis l'impression qui va se transposer. Il ne s'en faudrait plus que de si peu, et je pourrais, tout comprendre, acquiescer à tout. Un pas seulement, et ma profonde misère serait félicitée. Mais ce pas, je ne puis le faire. Je suis tombée, et ne puis plus me relever, parce que je suis brisée. Jusqu'ici, j'ai cru que je pourrais voir venir un secours. Voici devant moi, de ma propre écriture, ce que j'ai prié soir par soir. Des livres où je l'ai trouvé, j'ai transcrit cela, pour que cela me fût tout proche, pour que cela fût issu de ma main, comme jaillit de moi-même. Et maintenant, je veux le copier encore une fois, ici, devant ma table, à genoux. Je veux l'écrire, car ainsi je le tiens en moi plus longtemps qu'à le lire, et chaque mot prend de la durée et a le temps de retentir. Mécontent de tous et mécontent de moi-même, je voudrais bien me racheter et m'enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. Âme de ceux que j'ai aimés, âme de ceux que j'ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi, Éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde. Et vous, Seigneur mon Dieu, accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise. C'étaient des gens de néant, des gens sans nom, abaissés plus bas que la terre. Voici que je suis pour eux un objet de risée et le sujet de leurs chansons. Ils ont rompu mon sentier, et pour augmenter mon affliction, ils n'ont besoin du secours de personne. Maintenant mon âme se fond en moi. Des frayeurs la poursuivent comme un vent. Ma délivrance est passée comme une nuée. La nuit me perce l'os, et mes veines ne prennent point de repos. Mon vêtement a changé de couleur par la violence de mon mal. Il se colle à mon corps et m'en serre comme l'ouverture de ma robe. Les jours d'affliction m'ont surpris. Je ressemble à la poussière et à la cendre. Ma harpe n'est plus qu'une plainte et le son de ma flûte, un sanglot.